France Culture.
Quand on voyait passer un homme ou une femme nue au Moyen-Âge, on pensait hérésie. Au XVIIIe siècle, débauche. Au XIXe, folie. Au XXe, provocation. Jean-Claude Bologne, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui fera ce soir débauche d'analyse historique et usage provocant de littérature érotiquement hérétique en recevant Régis Schlagdenhoffen et Jean-Marc Barfetti, le premier pour Sexualités impudiques, maître livre paru aux éditions de l'Aube sur 2 siècles de contrôle des mœurs en France. Le second pour son édition érudite et passionnante aux éditions Gekitschkamp de Tu seras seul, livre témoignage de Marcel Rothenbourg. Paru en 1936 sous le pseudonyme d'Anna Cox, c'est livrant un témoignage capital sur le vécu homosexuel parisien durant la Belle Époque et les années folles. L'ouverture en seconde partie d'émission de l'Almanach de l'étrange de Céline Duchesnay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre où il sera ce soir question, nous y sommes, d'impudeur, de solitude, d'amour, d'affectivité, de secret, de clandestinité, avec 2 livres tout à fait remarquables de nos invités. Le premier donc, ce sera Sexualité impudique de Régis Schlagdenhoffen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes universitaire, maître de conférence à l'EHESS, l'école des études en sciences sociales. Et si on traduit votre nom en français, ça donne ?
Tape dans le tas.
Tape dans le tas. Eh bien écoutez, c'est parfait parce que ce soir, on va taper dans le tas des préjugés, des mauvaises images, des mauvaises idées. Un nom qui date de l'époque de Luther et de la guerre des paysans. À l'époque, on tapait dans le tas furieusement et puis l'impudeur y était punie souvent par le bûcher. Jean-Marc Barfetti, bonsoir.
Bonsoir.
Universitaire aussi ?
Non. Ingénieur de formation.
Ingénieur de formation, très bien. Érudit, éditeur, parce que votre édition de Tu seras seul est quand même tout à fait remarquable et éclaire, et il faut l'éclairer, ce roman qui, sans cela, est un peu, codé, crypté, autofictionnel, on va en savoir un peu plus. Et c'est aux éditions Gekitschkamp, dirigé par notre ami Patrick Cardon. Bonsoir Céline Duchesnay.
Bonsoir François Angelier.
C'est vous qui tenez la baguette ce soir?
Non, vous savez très bien que c'est faux.
Et donc, ce sont des invités que vous avez choisis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, une cohérence, il y avait un engagement.
Oui. Je pense qu'on va pouvoir faire des passerelles entre ces 2 livres. Et puis, je les ai choisis tout simplement parce que ce sont 2 invités que je suis très, très heureuse d'accueillir à Mauvais Genre. Je crois qu'ils sont absolument à leur place.
Ils sont déjà venus, d'ailleurs.
Alors,
L'un des deux.
Oui, Régis Schlagdenhoffen est déjà venu à l'époque de l'Encyclopédie pratique des Mauvais Genres. Il était venu nous parler, en fait, d'un livre qui s'appelle « Il s'aime ». Un siècle de photographies d'hommes amoureux, 1850-1950. Donc c'est à cette occasion-là que je l'avais rencontré. Et Jean-Marc Barfetti n'est jamais venu à Mauvais Genre, mais j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'ai fait la série documentaire sur le cabaret avec Laurent Polleret. Et j'avais interviewé
Laurent Polleret.
Bah oui, c'est original. J'avais interviewé Jean-Marc Barfetti sur l'histoire de la Petite Chaumière, le premier cabaret travesti qui se trouvait à Paris. Donc c'est un grand spécialiste de ces lieux qu'on pourrait qualifié louche, mais avec beaucoup de sourire sur le visage, car nous aimons tout ce qui est louche.
Oui, et ce qui est souriant. Également, messieurs, donc, bienvenue à Mauvais Genre, vous y êtes chez vous. J'ai demandé à Laurent Polleret de nous concevoir un moment sonore évoquant les années folles, musique.
Cache-truc, ni soutien, machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. Il m'a vu nu, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes 2 mains.
Et la veste de tout petit poton, Valentine, Valentine. Et la veste. Un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Ton tel est la veste un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits bottons, son petit piton, son petit menton.
Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Voilà, par ordre d'entrée en scène, des vieux trucs comme notre cher Laurent les aime tant. On avait ouvert avec Miss Tinguette, continué avec Maurice Chevalier, bien sûr, et terminé avec Joséphine Baker, et puis terminé à une espèce de déferlement de percussions qui font penser au Bob sur le toit. Vos héros respectifs étaient fréquemment, je veux dire, pas raflés, mais en tout cas invités et vus, Jean-Marc Berfetti.
Ah oui, tout à fait. Alain Rox, enfin Marcel Rotimbourg, Alain Rox, a beaucoup fréquenté tout ce monde-là, en particulier le Gaïa, qui était le cabaret qui avait précédé le Bœuf sur le Toit, et ensuite le Bœuf sur le Toit, et tout cet univers festif et mondain parisien.
Eh bien, nous allons en parler, mais avant cela, nous allons parler, Céline, de sexualité impudique. Alors.
Eh bien, je dirais même que nous allons parler de trois lettres, parce que tout a commencé avec trois lettres, O. Pépé
et parler des OP.
Voilà, puisque ce sont les trois lettres qui vous ont finalement interpellé et qui vous ont mis sur le chemin de ce livre, Régis Schlagdanofen. Puisque vous avez croisé ces trois lettres dans des archives régulièrement et vous vous êtes dit, mais de quoi s'agit-il ?
Exactement. C'était cette abréviation qui suscite la curiosité quand même lorsqu'on va aux archives. Et c'est vrai que j'aime bien mener l'enquête aux archives et essayer de comprendre dans cet univers des délits sexuels et contre les mœurs que pouvaient désigner ces trois lettres OPP. Alors j'en profite pour dire qu'il y a trois autres lettres, c'est OBM, outrage aux bonnes mœurs. Mais ça c'est un autre registre, ça peut être justement des chansons ou des publications indécentes. Mais les OPP, les outrages publics à la pudeur, ça ce sont des actes qui sont commis par des personnes comme vous et moi et qui choquent la pudeur publique. Et c'est bien la raison pour laquelle ils sont réprimés et poursuivis par la justice.
Et quelle est la raison de ce choix ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Est-ce que vous-même, dans votre histoire personnelle, vous avez eu à croiser des gens qui ont été condamnés pour ce type de méfait ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes le compagnon de ce sujet ?
En fait, la thématique au départ, c'était un peu différent, mais c'est ce qui nous réunit ce soir, c'est que j'essayais de retrouver des condamnés pour homosexualité. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que parmi les OPP, il y en avait beaucoup qui correspondaient à des relations homosexuelles souvent consenties dans l'espace public, mais pas que. Et c'est là que j'ai commencé un peu cet inventaire de tout ce que pouvait être l'outrage public à la pudeur avec différents types de pratiques qui avaient pour particularité d'être vues ou d'avoir pu être vues.
Alors justement, il y a le mot pudeur et c'est ce par quoi vous commencez quasiment le livre, à savoir qu'est-ce que la pudeur, parce que ce n'est pas un terme qui est facile à définir et qui a vraiment aussi beaucoup évolué au fil du temps, puisque vous vous situez sur à peu près deux siècles. Hein. Ça démarre en 1831 et vous finissez votre enquête. Alors vous ne retracez pas exactement les deux siècles, mais vous finissez quasiment aujourd'hui à la fin du livre. Exactement. Qu'est-ce que la pudeur ?
Tout d'abord, la citation d'entrée issue de Jean de Bologne, de son Histoire de la pudeur, montre bien qu'il y a des significations très différentes qui peuvent être associées selon les époques. Mais ensuite, dans le chapitre qui est consacré dans mon livre, disons, il y a d'abord la vision psychologique de la pudeur qui montre bien que c'est un sentiment qui apparaît chez les enfants à partir d'un certain âge. 5 ans à peu près, et qui fait qu'on cherche à l'enfant, cherche à se cacher, notamment ses organes sexuels. Donc c'est un sentiment grandissant et un sentiment qui peut aussi disparaître en vieillissant. Donc disons-le, c'est plutôt entre l'adolescence et tout l'âge adulte qu'on a tendance à être plutôt pudique. Mais tout le monde ne l'est pas, et c'est bien les enjeux qui sont soulevés dans une autre partie de l'ouvrage et les luttes qui peuvent exister autour de cette notion de pratique et aussi des manières dont cette pudeur peut être appréhendée.
Mais vous citez d'ailleurs deux pôles du débat, Montesquieu et Rousseau. Pour Rousseau, la pudeur est du domaine de l'acquis. La pudeur est sociale, la pudeur est morale. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on impose, qui est artificiel. Pour Montesquieu, ça serait un peu le contraire. Donc il y a dès le départ une espèce de polarité qui se crée, qui ne va pas cesser de s'amplifier.
C'est un peu cette tension qui existe souvent aussi dans la science en général, hein, entre ce qui peut être considéré comme, pour ainsi dire, du biologique et du construit. Alors ici, on est quand même à mauvais genre, et moi je travaille quand même sur les questions de genre, et cette construction du masculin et du féminin, c'est bien le social. Moi je parle aussi en spécialiste des sciences sociales, et donc je tenais à mettre cette première tension qui apparaît pour pouvoir ensuite la travailler tout au long de l'ouvrage et montrer aussi la manière dont des normes s'imposent à nous et aussi différents types d'argumentaires qui peuvent être employés justement entre l'inné et l'acquis.
Alors il y a aussi dans ces trois mots qui nous intéressent, il y a le mot public et vous citez d'ailleurs une des premières affaires sur laquelle vous êtes tombé, celle de Lucien et Raymond en 1966. Alors on imagine en lisant les faits qu'il s'agit d'une fellation dans une voiture ne pouvant être vue du public et pourtant c'est considéré comme de l'outrage public aux bonnes mœurs. Donc c'est ça aussi, à la pudeur. Donc c'est ça qui vous a intéressé, c'est que finalement ce qu'on appelle de public est aussi quelque chose qui est assez mouvant finalement, comme ce terme de pudeur, à croire que tout est mouvant dans cette manière d'outrage.
Régis Lagdenophon.
Oui, tout est mouvant. Alors là, on a un cas particulier très intéressant parce que le public qui a été outragé, on le sait, pour nos auditeurs et auditrices, c'est avant tout un policier, a priori, ou un gendarme qui incarnait le public et peut-être même la force publique. Et donc ça, ce sont des cas particuliers qui permettent de montrer aussi la manière dont la police, et on en reparlera peut-être avec les cabarets aussi plus tard, venait enquêter et débusquer finalement ces outrages à la pudeur, s'en indigner et ensuite transmettre cela à la justice.
Mais il semble quand même que les textes ont peu bougé pendant des décennies et des décennies. La définition de ce qui est l'impudeur, malgré le changement des mentalités, de la morale sociale, du costume, des comportements, dans des lieux publics ou privés, tout ça a quand même évolué. Entre, je dirais, la Restauration et les yéyés, les choses ont bougé. Non, la loi, elle est toujours là, tranquille, comme le vaisselier de la tante Hortense. C'est quelque chose qui bouge pas.
Mais non, mais le regard qu'on porte au vaisselier de la tante Hortense bouge. Et donc, il en va de même avec l'article de loi. Donc, et d'autres ont déjà travaillé dessus, tels que Marcella Yacoub, qui s'est intéressée, elle, spécifiquement à la Cour de cassation. Et ben, petit à petit, il y a des définitions supplémentaires. Et donc, en fin de compte, est-ce que quand on est chez soi, on peut outrager la pudeur du public? À un moment, la Cour de cassation dit oui. Et la tension augmente jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait les yéyés, mais l'apparition par exemple du monokini, de nouvelles modes, de bains ou balnéaires, font justement tanguer et réfléchir la justice. Et c'est là que petit à petit les choses s'assouplissent, et tout particulièrement après mai 68.
Alors qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans l'espace public qui fasse qu'on puisse avoir un problème avec la justice? Parce que vous en faites des listes.
J'en fais des listes, mais effectivement,
il y a beaucoup. Que ce soit concret un peu pour.
En fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire dans l'espace public. Alors, tout dépend si on se place avant 94 ou après 94, parce que le délit change, ça devient exhibition sexuelle accessible au regard du public, c'est plus explicite, mais en même temps, ça vise, quelque chose de plus clair. Mais auparavant, effectivement, on ne pouvait pas avoir des relations sexuelles ni dans une voiture, ni dans un train, ni dans quelque lieu public que ce soit. Dès lors, aussi qu'il accueillait du public. C'est pour ça qu'il y a eu des fois, lors de certains procès, il pouvait être dit, par exemple, que des relations sexuelles dans une école, lorsqu'elle est fermée, ça ne constituait pas un outrage public à la pudeur, parce qu'elle n'était pas accessible au public. Et enfin, il y a aussi tous les lieux publics par accident, c'est-à-dire chez vous, chez moi, dès lors que l'on est visible par la fenêtre. Et ça peut tout aussi bien, effectivement, avoir une relation, une interaction sexuelle, mais aussi bronzer tout simplement ou se promener dans le plus simple appareil.
Alors le bronzage, bon, c'est quand même largement réservé à la plage. C'est un endroit des vacances. C'est un excès, je dirais, de familiarité avec le lieu des vacances. Tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de bronzer. Mais par contre, les lieux publics urbains, là, ça devient assez compliqué puisque tout est public d'une certaine façon. Donc quand on pense à l'outrage à la pudeur, on pense évidemment d'abord et avant tout aux exhibitionnistes, beaucoup plus qu'aux pratiques prostitutionnelles. Et là, c'est quoi? C'est les rues, c'est les métros, c'est les cafés, c'est les tasses.
Les cabarets aussi.
Les cabarets aussi.
Cabarets, théâtre, cinéma, bien entendu les bains de vapeur, ce qui sont des hammams et des saunas pour le dire autrement. Et ensuite, bien entendu, tous les jardins, parcs et bois publics. Donc c'est beaucoup d'endroits, c'est enfin ce que je dis toujours aux étudiants et étudiantes, c'est 99% de la terre habitée pour ainsi dire.
Avec justement par rapport à ces listes que vous avez pu faire, vous avez au bout d'un moment essayé de croiser toutes les informations et vous dites au final que finalement la phrase la plus fréquente qui revient dans ces affaires, c'est finalement commettre un acte obscène en un lieu public en se livrant à la masturbation ou l'exhibition de ses parties sexuelles, notamment dans un urinoir. Et vous faites même dans votre livre une sorte de petite figure, un nuage de mots les plus fréquents où justement ces mots-là apparaissent, que ce soit donc urinoir, masturbation. Donc vous montrez bien quand même dans votre livre que c'est quand même certaines populations qui sont essentiellement arrêtées.
Exactement. Et en fait, la particularité, c'est que ce qu'on appelait le tribunal de la Seine, qui est désormais le tribunal de Paris, c'est celui où il y a le plus de contentieux en France. Et donc, il tire vers le haut, justement, le nuage. Et c'est pour ça que cette phrase idéale typique correspond à ce contentieux qu'on retrouve à Paris et qui est aussi typique des années précédant 1981 et l'élection de François Mitterrand, c'est-à-dire que la police faisait la chasse aux homosexuels dans tous les lieux publics, dont notamment les tasses qui ont toutes été fermées sauf une.
Donc les urinoirs. Donc,
voilà, boulevard Arago.
Alors, bien évidemment, ceux qui sont des croisés permanents de la vertu publique, que vous appelez ou qu'on appelle les vertuistes, et puis ceux qui sont pour qu'on reconsidère, qu'on remédite la chose et qu'on prenne peut-être de nouvelles dispositions légales et juridiques, qu'on appelle les réformistes. Alors, les vertuistes, c'est donc un terme qu'on doit au sociologue Vilfredo Pareto, qui, quand vous le citez, qui consacre à ses dignes personnages un texte très amusant. Les vertuistes lisent les plus mauvais livres pour en préserver autrui. Ils prennent longuement connaissance des images les plus obscènes pour pouvoir en empêcher le commerce. Ils vont jusqu'à fourrer leur nez sous le tutu des danseuses pour voir s'il n'est pas trop indécent. Ils scrutent avec persévérance la transparence du maillot. Ils composent des ouvrages qui, s'ils n'avaient pas l'étiquette virtuiste, seraient dits obscènes. Du matin au soir et du soir au matin, leur esprit s'arrête sur les choses mêmes qu'ils jugent funestes à la morale de leur prochain, mais dont eux ont le droit de s'occuper, car c'est pour le bien public. Voilà, petit texte de Vilfredo Pareto, Régis Schlagdenhoffen, sur justement les pères la pudeur, les grands moralistes, et bien les mères la pudeur aussi, d'ailleurs, après tout, on peut partager le travail. Véritablement, ces combats-là, ils s'engagent à partir de quand? Parce qu'il y a une morale induite, comme ça, incluse dès le 19e siècle, très rigoriste. On parle toujours de la morale victorienne, mais je pense qu'en France, les choses ne devaient pas être bien différentes. Comment s'incarnent un peu ces combats virtuistes tout au long de ce siècle et demi?
C'est vraiment vers la fin du 19e que ça apparaît avec différentes ligues qui sont fondées, qui sont souvent en lien quand même avec l'Église, catholique ou protestante, et qui cherchent finalement à rediriger notamment les masses, et les travailleurs, travailleuses et les classes populaires vers le droit chemin. Et donc qui s'insurgent dans certain nombre de choses. Et c'est ce qui est vraiment intéressant avec cet extrait du sociologue Vilfredo Pareto, c'est de montrer les contradictions qui existent chez ces vertuistes, qui existent toujours aujourd'hui sous une autre forme, hein, mais qui en fin de compte passent leur temps à épier, visionner les choses peut-être les plus scandaleuses, et nous imposent aussi leur censure, parce qu'il y a aussi eu longtemps en fait la censure, notamment au théâtre, mais pas que. Et donc, même si elle a pu tomber, eh ben, il reste toujours des censeurs qui sont des vertuistes pour partie et qui réapparaissent aussi aujourd'hui par moments. Hein. Donc, le temps des vertuistes n'est pas du tout derrière nous.
Et d'ailleurs, parmi ces policiers qui pouvaient, alors évidemment, vous citez tous ces noms qu'on a l'habitude d'entendre, que soit la Brigade des Mœurs, Mondaine, mais il y a aussi certains qui sont spécialisés, par exemple, dans la traque des homosexuels.
Exactement, et qui, par exemple...
Qui n'est pas un délit, on rappelle quand même qu'en France...
L'homosexualité n'a jamais été un délit et la prostitution n'est pas interdite en France. Et donc, ce qui est vraiment intéressant à travers l'outrage public à la pudeur, l'OPP, c'est de voir qu'en fin de compte, aussi bien la police que pour partie la justice étaient d'accord pour punir les personnes qui se livraient à ces deux types de pratiques ou d'activités. Et effectivement, eh ben, il pouvait y avoir des brigades spécialisées qui allaient justement, par exemple, dans les bains de vapeur, qui a enquêté pendant plusieurs jours, et j'ai pu retrouver dans des dossiers de procédure justement des fiches et des factures, savoir à combien ça pouvait revenir à la police finalement, parce que tous ces inspecteurs devaient déjeuner à midi, boire du bon vin entre deux moments dans les bains de vapeur, avant de pouvoir appréhender les fauteurs de troubles en flagrant délit.
Mais alors, est-ce qu'il y avait flagrant délit ou provocation? Parce que c'est la question qu'on peut se poser quand un digne fonctionnaire doit quand même ramener des dossiers qu'on devra juger. S'il ramène rien, on dit soit il fait rien, soit éventuellement il serait quand même complice. Donc il y a quand même une espèce d'ambiguïté forte entre l'outrage et le flagrant délit, et puis éventuellement une sorte de provocation pour être sûr d'attraper quand même un contrevenant.
Ah oui, il pouvait y avoir provocation, et donc ça c'est quelque chose de très problématique avec notre regard d'aujourd'hui, de se dire par exemple, mais là je pense plus particulièrement aux pissotières, hein, où donc là la police pouvait vraiment provoquer ou faire appel à des agents provocateurs pour pouvoir coincer les personnes en question, et donc il y a eu différentes affaires qui parfois ont défrayé la chronique dès lors que était appréhendée une personne plutôt célèbre, que ce soit un homme politique ou un homme du monde du spectacle, parce que je pense plus particulièrement à des hommes dans ce type d'affaires.
Mais alors justement, là aussi, c'était extraordinaire, parce que l'outrage à la pudeur, je veux dire, se caractérise un peu par justement des flagrants délits, des rafles. Et là, quand rafle il y a, d'ailleurs je crois que Jean-Marc Berfetti vous en citait quand même un cas avec des mémoires d'un policier célèbre, on est un petit peu gêné par l'identité, voire la célébrité des contrevenants. Ça peut même aller assez loin, mais en dehors du monde du spectacle, le monde de la mode, enfin, je veux dire, tout un univers qu'a priori on imagine tout à fait là, présent, en permanence. Et ça peut des fois aller dans l'armée, dans l'église, la haute fonction publique, la bourgeoisie d'affaires. On est un peu gêné. Des fois, l'outrage à la pudeur met plus dans la difficulté le malheureux fonctionnaire qui a réussi à le détecter que le coupable lui-même.
Effectivement, mais là on le voit bien dans les statistiques, c'est-à-dire qu'en fin de compte, eh ben il y a plus d'arrestations que de condamnations, donc il y a une forme d'échappement par moment, et tout dépend du fonctionnaire. Il y a des fonctionnaires zélés qui exercent leurs prérogatives, et d'autres peut-être aussi, il peut y avoir l'intervention soit d'un préfet, d'un commissaire par moment, et ce qui explique aussi pourquoi finalement le profil des personnes condamnées sont plutôt des personnes dites des classes populaires, et de temps à autre il y a un coup de filet avec une célébrité, et là ça défraiera la chronique.
Il était 5 heures bien sonnées. On était déjà avancé dans la buée qu'avait fait la pluie. Au travers du carreau, je vis, pas peigné, pas rasé, mouillé, avec de beaux visages rouillés, couverts de soleil et de pluie, comme on n'en trouve plus par ici. Une fille et puis 3 garçons, les yeux clairs et les cheveux longs. Tant pis, je les ai fait entrer. Et puis devant la cheminée, vide et sans feu ce soir d'hiver, ils ont voulu s'asseoir par terre. Je suis allé chercher du bois, du bois qui était resté dehors. Et comme il était tout mouillé, il n'a jamais voulu chauffer une fille. Et puis 3 garçons, les yeux clairs et les cheveux longs. Je ne sais pas de quel pays, de quel pays ils arrivaient. Ils étaient peut-être hollandais, mais nous disaient love en français. Parfois la fille tendait la main, elle avait des bijoux anciens. Et puis un grand foulard indien qui tournait autour de ses seins. Une fille et puis 3 garçons, les yeux clairs et les cheveux longs.
Voilà Pierre Vassiliou, la suite à l'avenant, vous verrez de quoi il était réellement question. Céline.
Alors, on peut peut-être parler aussi de ceux que vous appelez les impudiques, c'est-à-dire les personnes qui se sont fait attraper. On a quand même déjà commencé un petit peu à l'esquisser. En effet, ceux que l'on retrouve finalement condamnés, ce sont généralement, on voit ça à travers vos statistiques, des classes sociales qui sont plus populaires, essentiellement des hommes, plutôt moins de 40 ans, si on doit faire une moyenne. Alors, du côté des femmes, c'est généralement lié à la prostitution, dit 10 à 15% de femmes. Et moi, ce que j'ai trouvé tout à fait aussi intéressant, ce sont les exhibitionnistes. Parce que vous avez cette phrase, l'exhibitionnisme n'est pas toujours une affaire individuelle. Alors que pour moi, jusqu'à présent, dans ma triste expérience des exhibitionnistes, j'avais plutôt trouvé que c'était une affaire d'un homme individuel qui, tout à coup, avait la...
Plutôt des chasseurs solitaires.
Ouais, voilà. Et là, on découvre en fait qu'il y a deux types d'exhibitionnistes. Donc, les solitaires, et en effet, qui s'adressent, ce sont plutôt des hommes hétérosexuels qui s'adressent à des femmes ou des enfants. Donc évidemment, c'est imposé et sans consentement dans l'espace public. Et les exhibitionnistes à plusieurs. Et donc là, il s'agit plutôt d'homosexuels entre hommes. Et là, pour le coup, c'est consenti et réciproque. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que là, on se trouve plus face à un jeu de séduction et avec quelque chose qui n'a strictement rien à faire avec notre misérable exhibitionniste croisé dans un parc, une rue, un métro. Enfin, je peux faire la liste, une très longue liste, malheureusement. C'est tout autre chose.
Moi, qu'il soit misérable ou pas, qu'il soit seul ou à plusieurs.
Moi j'ai trouvé ça misérable quand même.
Ce que je trouvais intéressant, c'était d'essayer d'abord et avant tout d'appréhender tout ça sous le prisme de la mise en scène, du spectacle et de la performance. Et donc c'est comme ça que je me figurais toutes ces affaires.
J'aurais dû faire ça.
Chacun en fait s'est donné en spectacle et qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le décor? Est-ce qu'il y avait un public volontaire ou involontaire? Et ou des personnes prises à partie. Et donc ça, c'est le cas de l'exhibitionniste solitaire. Donc il prend à partie quelqu'un à qui il impose effectivement sa vue. En revanche, ces exhibitions à plusieurs qu'on pouvait retrouver aussi dans les affaires, et c'était des fois des grosses affaires, là, on avait quelque chose d'un peu différent qui pouvait sembler faire penser à une parade. Donc en fin de compte, on s'exhibe d'abord. Et là, j'imagine des fois des oiseaux qui s'exhibent pour séduire avant de pouvoir finalement pouvoir conclure.
C'est Proust dans Sodome et Gomorre, avec la scène entre Jupin et le baron de Charlus, qui est comparé à une espèce de grand oiseau qui fait sa parade amoureuse devant, je dirais, l'objet de sa séduction. Vous pointez l'année 1967.
Oui. C'était une année où il y a eu énormément de condamnations.
Alors pourquoi, question inévitable, pourquoi l'année 1967, on va pouvoir faire le coup du pré-68, la tension qui est maximum dans la société, comment vous analysez cette date?
Moi, je reste à cette vision assez simpliste, c'est que c'est le moment, l'année où il y a le plus de répression des délits sexuels et contre les mœurs. Et donc, c'est assez intéressant, et c'est pour ça que je l'ai cité comme année modèle, parce qu'on voit que peu de temps après, ça s'effondre.
Alors, question sur la pudeur aujourd'hui, Régis Schlagdenhoffen. Est-ce qu'elle est encore possible? Ou est-ce que la présence, le développement de toute l'image portative, les caméras, les photos, la capacité de fabriquer de l'impudeur, même artificiellement, est telle qu'aujourd'hui, est-ce que c'est toutes ces problématiques, comment vont-elles évoluer et survivre même?
Mais en fait, on a deux mondes qui fonctionnent en parallèle. C'est vraiment intéressant. Il y a ce monde derrière les écrans, avec effectivement, comme vous venez de le souligner, des créations factices issues de l'intelligence artificielle, mais aussi des créations réelles. Et donc tout ça relève de l'outrage aux bonnes mœurs et des publications peut-être pornographiques, avec aussi des vertuistes derrière. Et à côté, la réalité que nous vivons, toutes et tous, la réalité sensible et vécue, et un retour de l'impudeur. Donc c'est ce qui est un peu particulier, et donc faudra voir ce que ça donne les années à venir, mais c'est mon sentiment ou mon constat.
Dernière question, vous dites d'ailleurs qu'il y a vraiment des cycles de répression et de relâchement moral, et la dernière ligne de votre texte quand même, c'est vous dites que tout porte à croire un retour de la répression de l'impudeur, comme si on allait rentrer dans une époque plus... plus difficile par rapport à ça, moins permissive.
Là, ça se resserre, et c'est ce que je vois avec les régressions statistiques issues d'une analyse des jugements.
Régis Schlagdenhoffen, sexualité impudique, outrage à la pudeur, récit de deux siècles de contrôle des mœurs en France, c'est aux éditions de l'Aube.
Deux amis, la blonde et la brune, ne sont plus deux, mais ne font qu'une. Regardez-les, l'une sur l'une. Sûrs de n'être pas dérangés par les lueurs rouges orangées du grand foyer de cheminée. Bouche entre cuisses, bougeant à peine, sur le tapis de haute laine, le même plaisir les enchaîne. Je ne saurais vous les dépeindre, alors regardez-les s'étreindre et doucement, longuement geindre. Deux amis, la brune et la blonde, leurs corps nus et chauds se confondent, l'amour les isole du monde. Elles se boivent, elles s'embrassent, elles s'inondent, elles s'enlacent, sans jamais, jamais crier grâce. On dirait parfois qu'elles pleurent, on dirait parfois qu'elles en meurent, et ça dure depuis des heures.
Voilà, Pierre Dudan, la fin, avec tout le long programme. Il faudra écouter la fin, mais vous l'écouterez plus tard, la fin. Chers auditeurs, Jean-Marc Barfetti, donc Tu seras seul, en 1936, paraissait donc un livre sous ce titre aux éditions Flammarion. Il était signé Alain Rox. En définitive, se cachait sous ce nom Marcel Rotembourg, dont vous avez retrouvé à la fois l'histoire, même l'arbre généalogique, et vous avez retracé entièrement l'histoire de cet homme, Céline Duchesnel. Là, on a un document qui est à la fois analytique et en même temps lyrique. Enfin, je veux dire, on est à la fois dans une autofiction, un témoignage personnel, et en même temps une sorte de présentation assez précise, assez typée, caractérisée.
Oui, alors a priori, c'est un roman, mais de toute façon, on a déjà une sorte de petit avant-goût avec le sous-titre que vous avez donné à l'ouvrage, puisque vous parlez de mémoire, et que votre enquête, justement, Jean-Marc Barfetti, c'est de... Vous avez vraiment essayé de voir ce qui était vrai dans ce roman, et tout votre travail a été de montrer que l'histoire qui est racontée, qui est en fait la vie d'une personne, de sa naissance jusqu'à l'âge de un petit peu avant 40 ans, correspond réellement à celle de son auteur. Donc ce sont un roman, mais en fait ce sont des mémoires quelque part.
Alors, tout à fait. Effectivement, la première fois que je l'ai lu, que j'ai découvert, effectivement, donc découvrir un livre, Alain Roche, tu seras seul, j'ai assez vite compris qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà du roman tel qu'il se présentait, sachant d'ailleurs que lui-même, à la fin, à la toute fin, laisse échapper le mot mémoire. Et puis il y avait des faits qui étaient trop précis, donc il a fallu trouver la clé pour se dire, mais dans le fond, mais qui se cache derrière ce personnage ? Toutes les recherches étaient évidemment vaines, et en fait, à un moment donné, il explique qu'il s'est marié, et qu'il a divorcé au bout de 15 jours. Alors après, l'histoire nous permettra de savoir qu'il a divorcé parce que pour non-consommation, en fait, il n'a pas été tout à fait à la hauteur de la situation, pour dire les choses comme ça. Et donc, grâce aux informations qu'il donne, j'ai retrouvé dans l'état civil parisien en ligne un mariage dans le 17e arrondissement qui s'est terminé par un divorce au bout de 15 jours. Et ça y est, j'avais trouvé la clé. Et ensuite, donc j'ai mené une enquête sur ce Marcel Rotinbourg et ça m'a permis de vérifier, alors, évidemment, des faits parfois extrêmement précis sur son service militaire qui montrent qu'effectivement, il avait un désir, presque une obligation morale de sincérité, de véracité dans son propos. Et donc, je me suis dit, s'il a cette exigence personnel vis-à-vis de le jour où il s'est marié, les enfants qu'ont eu ses parents avant lui, etc. Il l'a aussi sur sa vie d'homosexuel, sa découverte, le dévoilement de son homosexualité, et ensuite sur toute la vie qu'il a menée à Paris entre 1919 et effectivement la fin des années 20, dans ce monde homosexuel, mais aussi sa vie sentimentale.
Alors, ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est, je dirais, la montée inexorable et lente, rythmée par toute une série de figures et d'événements vers l'homosexualité, puisqu'au démarrage, il y a le sentiment, il note la beauté physique de certains de ses camarades de lycée, de collège, après, des choses comme ça, il y a une espèce d'insistance là-dessus, mais néanmoins, il n'est pas question d'évoquer, de reconnaître quoi que ce soit, et puis peu à peu, il y a l'échec du mariage. Et puis, il y a quand même, on arrive quand même un jour à cette espèce d'aveu personnel. Et le plus terrible, c'est l'aveu avec le père. Je veux dire, il y a une scène absolument terrible quand le père parle d'abomination, parle de choses effroyables. Il y a une espèce de face-à-face et de dévoilement, de cassure familiale. Donc, ce qui est le plus fascinant, c'est cette montée, comme ça, Jean-Marc Barfetti, d'un personnage qui peu à peu découvre, savoure les choses, les reconnaît, connaît des expériences qu'il assume.
Alors, il est vrai que toute la première partie, il est clairement dans une phase de déni, on dirait même d'aveuglement, c'est-à-dire qu'il n'interprète pas en fait ce qu'il ressent, ou même les messages qu'on lui passe. Il sent bien qu'effectivement, quand il regarde un garçon, il a quelque chose qui est différent. Il sent aussi qu'effectivement, son regard sur les femmes, ses expériences assez laborieuse pour utiliser ce mot avec les femmes montre qu'il y a quelque chose qui entre guillemets ne fonctionne pas, mais malgré tout il est dans cet aveuglement. Alors à sa décharge, il faut quand même dire que voilà, dans les années, donc c'est avant la Première Guerre mondiale, j'allais dire les modèles d'identification étaient extrêmement faibles, il n'y avait quasiment pas de littérature, il n'y avait même pas d'études, il n'y avait rien du tout. Donc il n'avait pas cette aide qu'on peut avoir aujourd'hui de se dire, je lis un livre qui peut-être m'éclairera sur moi-même. Et effectivement, sa première expérience est même presque assez triste dans sa forme, puisque en fait il est en Italie lors de la Première Guerre mondiale dans une mission militaire, et en fait il est attiré par un garçon, des garçons qui sont en fait des prostituées romains, on se croirait chez Pasolini, et il a sa première expérience sexuelle sous les arcades du Colisée. Et évidemment, le garçon lui demande de l'argent, donc c'est peut-être pas la meilleure façon. Après, effectivement, quand il l'a accepté, il y a toute une phase où effectivement il le dit autour de lui, à ses amis, à sa mère. Et effectivement, il y a la question du père. Et en fait, à un moment donné, le père, c'est le père qui déclenche. Parce que le père, en fait, malgré tout, voilà, les parents, ils réfléchissent quand même à ce qui s'est passé. Et le père, à un moment donné, il apprend que son fils va partir en vacances avec une personne qui est réputée être homosexuelle. Et il lui dit, mais est-ce que toi aussi tu l'es? Et ça crée une crise. Mais j'allais dire, la fin de l'histoire est presque... Enfin, belle, je ne sais pas, mais... Le père et le fils vont voir un neurologue.
Kaminski.
Voilà, qui s'avère être une personne réelle, que j'ai identifiée depuis, d'ailleurs, qui s'appelle Babinski.
Ah oui, célébrissime.
Exactement.
Bon, grande figure de la médecine.
Et ce neurologue, bon voilà, explique au père, mais en définitive, c'est pas si grave. Et voilà, ils sont nombreux. Et le père fait un travail sur lui-même. On aurait aimé entendre le père. Hein. On entend que le fils qui parle du père, mais on aimerait entendre le père. Mais le père, effectivement, à un moment donné, accepte. Et ça va même jusqu'à un moment donné où quand Marcel Rotinbourg, Alain Rox, a un ami qui s'appelle Philippe, ben les parents demandent à rencontrer cet ami. Voilà. Et donc c'est aussi des choses qui, je pense, sont extrêmement intéressantes de se dire, voilà, on est en 1925, il y a des parents qui, après avoir fait un travail qui a été sûrement difficile pour le père, acceptent de rencontrer l'ami de leur fils.
Mais on peut dire qu'il a eu la chance quand même, Rotinbourg, parce qu'il aurait pu être interné, psychiatrique, il aurait pu être, je sais pas, on aurait pu songer à une répression beaucoup plus violente.
Alors je pense qu'il y a...
Toutes les familles ne sont pas à l'écoute, dans la compréhension, le dialogue et tout, ça aurait pu être beaucoup plus sévère.
Ça aurait pu être plus sévère. Je pense qu'il y a dans la volonté de Marcel Rotinbourg d'écrire ce livre, c'est de témoigner... Que voilà, par rapport effectivement peut-être à des discours, soit effectivement qu'il aurait pu être interné, il aurait pu être, pris dans des rafles de police, avoir des problèmes avec la justice, il aurait pu avoir des problèmes avec des maîtres chanteurs, attraper les maladies vénériennes, etc. Non, on peut aussi vivre, même en 1925, une vie où alors effectivement il y a des difficultés, mais à un moment donné, voilà, on arrive à s'épanouir, à s'assumer, à avoir une vie, alors évidemment sexuelle, mais aussi une vie sentimentale. Et je crois que c'était tout le propos et toute l'intention de Marcel Rotinbourg.
C'est ce que j'allais dire, c'est que vraiment, on se demande en fait à qui s'adresse ce livre. Et on a l'impression que ce livre s'adresse aux futures générations, quelque part, puisque lui montre que comme il n'a pas eu de modèle, qu'il n'avait pas de référence, eh bien, il avait tout à deviner, puisqu'il n'avait pas pu, comme aujourd'hui, il ne savait pas que ça existait. Donc déjà, je trouve que c'est le premier point qui est, je trouve, très beau dans cette idée de vouloir transmettre aussi que son expérience puisse servir à d'autres. Et l'autre élément qui est très beau dans la manière dont il s'adresse, c'est qu'il s'adresse à ceux qui ne sont pas concernés par l'homosexualité, notamment aux hétérosexuels, pour leur montrer que les homosexuels sont normaux dans une autre forme de norme, finalement. Et il y a tout un aspect, je trouve, très pédagogique, éducatif, dans la manière dont il nous fait cheminer à ses côtés, dans son propre cheminement, dans ses questionnements personnels, parce qu'il a eu du mal à accepter les choses au départ, dans la manière dont il essaye de convaincre les autres, dont il va parler à ses amis, la réaction de ses amis, évidemment, la réaction de la mère, du père. Et on sent que c'est un livre qui n'est pas écrit que pour lui-même, de toute évidence.
Clairement, c'est une volonté de témoigner. Effectivement, je pense qu'il parle d'abord effectivement aux hétérosexuels. Quelque part, c'est une réponse. On parlait de la Petite Chaumière. Il est allé à la Petite Chaumière.
Donc, le premier cabaret travesti.
Le premier cabaret travesti, donc effectivement, où les serveurs, le spectacle, c'était tous des hommes habillés en femmes. Et à un moment donné, il est un peu révulsé, il parle de pantin lamentable, et il dit, mais si les gens qui viennent, qui sont, alors il n'utilise pas ce vocabulaire, qui sont hétérosexuels, s'imaginent qu'on est tous comme ça, mais non, vraiment, il faut, c'est pas admissible. Et donc, alors après, c'est moi qui crée le lien direct entre cette expérience de la Petite Chaumière et son livre, mais je pense que tout ce qu'il a reçu comme stigmatisation, comme image dévalorisante, mais même d'auteurs, on parlait de Proust avec Jupien et Charlus, une scène de voyeurisme violent. Lui, visiblement, a eu une vie sexuelle nettement plus apaisée. Il aurait eu envie de dire, ben voilà, on peut aussi être... le mot est bien choisi, normal.
Oui, et respectable.
Et vraiment, respectable. Voilà. Parfois un peu trop, d'ailleurs. Marcel Rotinbourg, par moment, il a un goût un petit peu trop de respectabilité.
Oui, il y a un goût pour une certaine placidité. Alors, ça n'est pas tout le temps le cas. On parlait de la Petite Chaumière, mais il y a également les moments festifs, carnavalesques, comme les bals de Magic City. « Les bals de Magic City, il y a une dizaine d'années, au Mardi Gras et à la mi-carême, déployaient une splendeur qu'ils ont un peu perdue par la suite. Tout ce que Paris recelait de plus audacieux, de plus ostensible dans le monde de l'homosexualité, s'y déversait dans des costumes de toutes les inspirations et de tous les genres. Souvent dans les travesties les plus invraisemblables ou des modes désuètes, étaient parfois ressuscités d'une façon caricaturale en des amoncellements baroques d'oripeaux hétéroclites, de rubans, de volants et de dentelles, et que certains parmi ceux qui les portaient avaient passé l'année entière à combiner et à ajuster. Car il est une catégorie d'invertis pour qui les bals de Magic City étaient la plus grande affaire. C'était en effet les deux seuls jours de l'année où il leur fut possible de s'extérioriser complètement, de libérer leur nature trop complaisamment développée, de proposer leurs avantages à l'admiration des foules, de se donner en spectacle ce qu'ils adorent, de faire valoir leur charme plus peut-être que leur fantaisie, qui est souvent d'ailleurs bien amusante. Toutes les vedettes annuellement accueillies par de bruyantes clameurs et avides de ce triomphe d'où elles retombaient dans le néant jusqu'au prochain carnaval, faisaient dans la large galerie qui dominait une des salles de danse des entrées sensationnelles, parfois impatiemment attendues et dont l'annonce parcourait l'assistance dès qu'elles avaient franchi l'enceinte de Magic. La Miss arrive, Marguerite de Bourgogne monte l'escalier. Vous allez voir Henriette d'Angleterre. Elle porte un singe et un perroquet.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Oui, alors là, effectivement, là, c'est le carnaval, mais il est quand même sur son compte à soi, Marcel.
Et ce qui est assez génial, Jean-Marc Barfetti, c'est qu'à la fin, vous nous avez fait une sorte de catalogue de tous les lieux qu'il a fréquenté. Donc, vous êtes allé retrouver les lieux. Et puis après, donc il y a des cabarets, il y a aussi les fameux promenoirs aussi où les hommes pouvaient se retrouver, mais pas que les hommes d'ailleurs. Et le livre est à la fois ce texte-là, mais aussi toutes les recherches que vous avez faites, vous, de votre côté.
Effectivement, ce livre, il peut être lu, de façon, il peut être pris tel quel, sans cet aspect, documentaire, érudit. D'ailleurs, c'est juste un détail, mais on a mis toutes les notes, non pas en bas de page, mais enfin. C'est-à-dire que peut-être que pour que le lecteur découvre ce texte comme moi-même je l'ai découvert, sans savoir que on parle d'Alain Rox, mais qui s'appelle Roland Terrier dans le roman. Il s'amuse beaucoup avec les noms. Et donc voilà, donc de découvrir le texte tel qu'il est. Mais effectivement, derrière, il y a aussi un aspect documentaire extrêmement intéressant, et il décrit entre 1919 et 1925 tous les lieux où il est allé. Alors il y a des lieux, on parlait de la Petite Chaumière qui était déjà bien connue, le Magic City, mais c'est probablement un des intérêts, c'est qu'il parle de lieux qui ont disparu et qui n'ont laissé aucune trace. Alors ça peut être des lieux effectivement comme des cabarets, mais ça peut être aussi, par exemple, il fréquentait beaucoup les salons de thé. Et il a, par exemple, beaucoup fréquenté un salon de thé qui s'appelait le Thé Récamier, qui était rue du Mont-Tabor. Et ces univers-là, c'était des univers tout sauf interlope. Hein. D'ailleurs, on peut en profiter, s'il y a quelqu'un qui n'était pas mauvais genre, c'était bien Marcel Rotenbourg. Il allait dans des salons de thé très sélects, qui s'appellent donc le Thé Récamier. Et ce Thé Récamier, il est extrêmement connu, puisqu'il a... par exemple, Mireille Havé, avec ses amis.
Immense Mireille Havé.
Exactement. D'ailleurs, je remercie Alain Roche de m'avoir fait découvrir Mireille Havé et fait lire Mireille Havé. Donc, Mireille Havé y allait avec ses amis. Et en fait, ces milieux-là étaient protégés parce que malgré tout, c'était quand même des lieux de sociabilité plutôt bourgeois, mondains, étaient protégés de ce dont on a parlé, effectivement, de la police, de la justice. Et aussi peut-être protégés parce que c'était des mondes qui n'étaient pas exclusivement homosexuels, puisqu'ils étaient ouverts sur l'extérieur. Et donc, c'est toute cette géographie parisienne qui est intéressante à faire revivre, parce que souvent, on a une vision parfois un peu binaire. C'est-à-dire, voilà, il y a des lieux pour les homosexuels, il y a des lieux pour les hétérosexuels. Non, il y a, dans les interstices de ces mondes-là, ça se croise, ça se retrouve, ça se sépare. Mais néanmoins, il allait aussi dans quelques bars qui n'étaient qu'homosexuels.
Oui, mais justement, c'est là où l'impudeur peut être condamnée, là, puisque si c'est un endroit qui est pour tout public, si effectivement des comportements un peu trop explicites ont lieu, c'est là où, bon, effectivement, ça, c'est assez dangereux, c'est assez ambigu.
Alors, si on parle du Thé Récamier, je ne pense pas qu'il s'y passait des choses
qui
outrageaient la pudeur et les bonnes mœurs. Peut-être génial. Après, mais il fréquentait aussi des lieux, comme les fameux établissements de bains dont on a parlé, où là, effectivement...
Les bains de vapeur.
Les bains de vapeur. Alors, est-ce que il n'a jamais eu la malchance d'être pris dans une rafle de police, ou parce que justement il veut aussi éviter les côtés un peu scandaleux, l'homosexualité, les côtés un peu sordides, il a masqué, il a un petit peu mis de côté ces aspects-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne parle pas du tout de la police, des rafles, comme il ne parle pas des maîtres chanteurs, qui étaient quand même un des grands dangers que pouvaient courir les homosexuels, c'est de tomber sous la coupe d'un maître chanteur qui, à un moment donné, pouvait effectivement les menacer de révéler à tout le monde et donc de perdre cette respectabilité sociale que beaucoup quand même voulaient garder.
Oui, parce que chez Marcel Rotembourg, il y a quand même ce goût d'un espèce de bonheur au quotidien, de vie qui n'est pas ni scandaleuse ni affichée. Mais quand on lit un autre événement éditorial récent, le journal de Julien Green dans sa version intégrale parue chez Bouquin, là on voit qu'il y a quand même des fois une espèce de frénésie érotique dans l'espace public qui pouvait là déborder vers des comportements alors là répréhensibles.
Alors, c'est un peu, j'allais dire, un mystère, Marcel Rotembourg, c'est que déjà sur l'aspect vraiment purement sexuel, j'ai fait une étude, mais elle est vite faite, hein, les seuls mots qu'il utilise, c'est caresse et baiser. Quand il dit qu'il a rencontré Philippe dans un bain de vapeur et qu'ensuite il se retrouve dans sa garçonnière et qu'ils ont leur première nuit d'amour, c'est caresse et baiser. Alors effectivement, quand on lit Julien Green, c'est un petit peu plus explicite sur ce qui s'y passe.
Certes.
Parfois même un peu trop, on se demande s'il n'y a pas une certaine complaisance, mais c'est un autre sujet. Et donc, est-ce que dans le fond, lui a eu aussi une vie frénétique, sexuelle frénétique? En tout cas, le texte ne le laisse pas penser. Pareil, est-ce qu'il a voulu le masquer? Comme c'était un témoignage, il voulait peut-être aussi éviter qu'il y ait une espèce de voyeurisme du lecteur, je ne peux pas le dire. On parlait des Vespasiennes, et les tasses, comme on disait, qui est un monde très très présent dans le journal de Julien Green. Mmh. Il le cite absolument jamais. Alors, est-ce qu'il ne les a pas fréquentés? Il n'a pas voulu le dire? Je ne sais pas. Mais il préfère effectivement nous raconter sa grande histoire d'amour avec Philippe.
Oui, ça, c'est pour lui beaucoup plus...
Oui, mais enfin, en même temps, il peut avoir des expériences à trois et très régulièrement aussi. Oui. Mais ce qui est vraiment le sort de fil rouge de tout le livre, c'est sa quête d'amour absolu. Oui. Parce que c'est un homme qui cherche son ami, comme s'il pouvait y en avoir qu'un seul, et qui, le jour où il rencontre Philippe, il se dit, ça y est, c'est pour la vie, il reste vraiment sur le modèle parental, quelque part, puisque ses parents avaient fait un mariage un peu arrangé, mais qui était un mariage d'amour. Ils s'entendaient extrêmement bien.
Alors, très clairement, c'est vraiment... Dans l'économie du livre, où il y a trois grandes parties, la troisième partie, c'est... donc, le tiers, c'est son histoire avec Philippe. Et effectivement, il l'a rêvé. Il l'avait appelé Raoul. Et puis, quand il a rencontré Philippe, il a dit, c'est Raoul. Il y a parfois des petites pointes, un peu de naïveté pour un homme qui écrit, qui a quand même 45 ans. Et donc, effectivement, il rencontre ce garçon. Mais effectivement, l'histoire se termine, entre guillemets, mal, puisqu'ils se séparent. Ils n'arrivent pas à construire quelque chose. Mais je suis assez d'accord que je pense qu'il a un rêve de conjugalité avec ce garçon qu'il n'a pas réussi à obtenir.
Conclusion,
et puis, il faut dire aussi que ce livre est une sorte de sépulture que vous offrez aussi à Marcel Rotembourg, parce qu'en faisant vos recherches, vous avez quand même découvert qu'il est mort à Auschwitz et qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il est mort, et on ne sait même pas si... Enfin, on sait qu'il est mort, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il est mort, enfin, on peut l'imaginer. Et quelque part, le fait qu'il n'ait pas laissé de traces, que plus personne ne se souvenait de lui, il reste vivant grâce à l'ouvrage que vous lui avez consacré.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il était juif.
Exactement. Et alors, d'ailleurs, j'en ai appris un peu plus après, effectivement, après la guerre, en 1950, l'agence bancaire de Lyon s'est inquiété de savoir qu'est-ce qui était devenu son client Maurice Romain. Et en fait, c'est eux qui ont diligenté l'enquête. Et c'est quelque part le titre « Tu seras seul ». Quand il l'a écrit, c'était un peu dramatique par rapport à une solitude sentimentale. Et en fait, c'est presque tragique parce que c'est l'homme dont la mort a été volée, en fait.
« Tu seras seul » d'Alain Rox, alias Marcel Rotembourg, une édition de Jean-Marc Barfetti, c'est aux éditions Gekitschkamp.
La première question que vous pourriez avoir envie de me poser serait probablement, mais qu'est-ce qu'on entend? Et je répondrai, c'est la respiration d'un dinosaure. Mais en réalité, il y a une deuxième question à poser qui serait, qu'est-ce que ça sent? Et là, je peux vous raconter une histoire, celle de la reconstitution du souffle d'une bête préhistorique, son haleine. Tout a commencé en 2006 en Suisse, dans une carrière d'argile, quand les dents d'une pelleteuse ont buté sur un os fossilisé, celui d'un platéosaure. Et si l'on connaît à peu près correctement le physique de cet oiseau géant, vivant il y a plus de 200 millions d'années, on ne sait pas vraiment ce qu'il sentait. Et c'est ce qu'a voulu savoir l'artiste-chercheuse Anaïs Tondeur. Pour découvrir l'haleine d'une bête, comme d'une personne d'ailleurs, il faut patiemment reconstituer son régime alimentaire et connaître son système digestif. C'est précisément ce qu'a fait Anaïs Tondeur avec pour résultat une installation olfactive intitulée « Ceci est son souffle » qui se tenait au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel. Plongés dans la pénombre, les visiteurs étaient invités à rencontrer le platéosaure à travers un son, celui que vous avez entendu, et une odeur, l'haleine de la bête. Alors avant de vous raconter comment Anaïs Tondeur a reconstitué cette odeur, je vous ai apporté une petite fiole remplie de l'haleine de la bête et je propose de la faire sentir à François Angelier afin de recueillir en direct ses premières impressions.
Allons-y. Merci, cher collègue.
Pas dans le nez, quand même.
Ah, c'est assez musqué, c'est assez intense. Ça fait un peu penser à l'ammoniac. Je veux dire, l'haleine de dinosaure sentait l'ammoniac. Révèle à scoop dans Mauvais Genre.
Alors, je crois que j'aurais pu quand même vous donner quelques indices pour vous mettre sur la bonne voie, à savoir que le platéosaure est herbivore. Donc, Anaïs Tondeur a retrouvé les descendantes des plantes dont il se nourrissait. Elle les a fait macérer, puis avec l'aide d'un nez, à savoir la parfumeuse Carole Calvez, elle a créé cette composition olfactive. Anaïs Tondeur.
C'est une odeur assez multiple, composée en plusieurs plans. Le premier plan est plus associé à ces notes très vertes, ces notes végétales associées à la fougère, à la prêle. Il y a un côté un peu plus résineux du pain. Et en arrière-fond, la note de fond fait plus appel au principe de décomposition de ces matières organiques, de ces matières végétales à l'intérieur du système digestif de l'animal. Donc là, c'est une odeur que l'on pourrait décrire, plus d'un début, en fait, de putréfaction, mais végétale, organique.
Alors Anaïs Tondeur, quand vous sentez justement cette haleine, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez rencontrer cet animal préhistorique?
Alors, ce que j'imagine surtout, c'est une façon de se projeter dans des temps qui dépassent totalement nos imaginaires. Et par cette expérience du souffle de l'animal, d'une certaine manière, plutôt rencontrer les plantes avec qui il vivait à cette époque. Donc finalement, c'est plus le milieu végétal qui se présente à moi que l'animal en lui-même.
Cette installation sensorielle est à l'image d'Anaïs Tondeur dont tout le travail montre les interdépendances profondes qui unissent humains, végétaux et minéraux. Et avec ceci et son souffle, le visiteur qui est invité à respirer l'haleine du platéosaure est amené à réfléchir à cet air qui circule librement entre nous, que nous inspirons et partageons, quel que soit le lieu, l'époque ou l'individu.
Merci Céline pour cet almanach de l'étrange consacré à Anaïs Tondeur. Ceci est ton souffle, l'haleine du platéosaure. Merci Régis Schlagdenhoffen d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre et à Jean-Marc Barfetti. Également, je rappelle vos livres, Sexualité impudique aux éditions de l'Aube et Tu seras seul, mémoire d'un homosexuel de la belle époque aux années folles, présenté par Jean-Marc Barfetti. C'est aux éditions Gay Kitsch Camp. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Nicolas Bonnet, Claire Poissignon, Céline Duchesnay, Claire-Martin Dugarry, François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.